sonner du chauffard. Mais nous, quand on parle toujours de tkiot du chauffard. Mais la mitzvah du jour, ce n'est pas tkiot du chauffard, c'est teroua du chauffard. Et teroua, ce sont plutôt des pleurs, des sanglots, des pleurs. Et a priori, Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement d'Hachem comme Melech. Donc, on doit être joyeux. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi la mitzvah Tayom, c'est la troua qui est plutôt qui n'est pas vraiment la grande joie. Alors, d'abord, on peut imaginer qu'il y a les sanglots qui viennent, les sanglots de joie. C'est que quelqu'un, par l'émotion, dans la joie, il peut aussi sangloter. Mais on peut dire que c'est aussi les sanglots du Baal Tshuva qui sent qu'il est loin d'Hachem, etc. Mais surtout, ce qu'il faut dire, la Gemara, elle dit que la toile est toujours encadrée par des tkiot. Les tkiot, c'est le long son, ça c'est vraiment la joie, c'est l'explosion de joie. Donc ça veut dire que même si le cœur est un cœur brisé, en quelque sorte, c'est ça que symboliquement la troua représente, néanmoins ça doit être dans un cadre de joie. On peut pas, la Torah elle n'admet pas qu'on vive dans la tristesse en quelque sorte. Donc, même si effectivement il y a c'est un jour, c'est un peu effrayant, on va être jugé, tout ce que vous voulez, mais il faut au moins que ça soit encadré par la joie. C'est, la avoda se fait dans la joie. Ok, donc la mitzvah, c'est de sonner une troua encadrée de qui a avant et après. Donc c'est ça la mitzvah. Si on a fait ça, on a fait la mitzvah. Seulement, on a un problème, c'est que la troua, c'est-à-dire, si vous remontez très loin, c'est-à-dire pendant le temps de la Mishnah, ou ça, dans les différentes communautés, on ne sonnait pas la troua de la même manière. Il y avait des communautés où la troua, c'était ce que nous, on appelle Shvarim, c'est-à-dire tu, c'est quelqu'un qui se plaint, oh, il veille. Il y a des communautés où on sonnait la trouma, on la sonnait, un instant j'ai perdu. Des communautés où on sonnait la troua sur des sanglots, tut. Et puis il y avait des communautés où on sonnait d'abord shvarim et après troua. C'est une façon de pleurer, de commencer par se plaindre, puis après on éclate. Pourquoi l'autre côté n'existe pas, c'est-à-dire, commence pas par des trouottes et puis ensuite des shvarim. Personne pleure comme ça. Et bon, c'était comme ça. Et Rabbi Abaou, il a voulu unifier. Il voulait que tout le clan d'Israël sonne de la même manière. Alors on a décidé qu'on allait tous sonner. On sonne les trois sortes. Donc c'est un vieux. Des décisions, mais c'est pas Mikar Hadin. Mikar Hadin, mais seulement comme on ne sait pas à coup sûr, puisqu'il y avait des minagim comme ça, des minagim comme ça, on a voulu faire quelque chose qui soit unifié pour tout le Israël. Rabbi Abaou a dit bon, on va sonner les trois choses. Et comme on sonne les trois choses, on a décidé qu'on allait sonner trois fois chaque chose en quelque sorte. Pour être. On a cette histoire de trois sonneries, donc on va trouver ça trois fois chaque chose. Le, La sonnerie fondamentale, c'est la sonnerie dans la Amida, la sonnerie dans la répétition de la Amida. Donc, quand on a sonné dans la répétition de la Amida, comme vous savez, on sonne après les Malchouyot, après les Zichronot et après le Shofarot. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on sonne à chaque fois la totale, si vous voulez. Bon, c'est ça, l'essentiel. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup on sonne avant la Amida? Les tkiot, les sonneries durant la Amida, ça s'appelle les sonneries de Mehoumad, les sonneries quand on est debout. Et il y a les sonneries qui sont appelées les sonneries de Mioushav, c'est qu'on est assis alors que nous on se lève, mais en fait on pourrait être assis, parce que c'est la Shemoneh Esrei qui nous oblige à nous tenir obligatoirement debout. Alors on sonne avant. Pourquoi on sonne avant? Alors je crois qu'il y a deux raisons. Une raison, c'est que il y a toutes sortes de gens qui peuvent pas ou qui ont des difficultés à être là. Moussaf, c'est très long. Et donc, on sonne dans Moussaf, c'est long. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la force, ou bien il y a des enfants à garder, etc. Donc, on va leur faire toute une sonnerie, rapido, complète, avant tout. Et voilà. Et ça s'appelle Tkiot de Meushav. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des Tkiot après la Amida. Alors, du coup, on ne comprend pas pourquoi il faut sonner encore après la Amida. Alors, ça vient d'un miracle beaucoup plus récent, si vous voulez, qui n'a pas de source, ni dans le Passou, dans les Psukim, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. C'est que on a un miracle de sonner 100. 100. 2 fois 50, 100 coups. D'où ça vient? Ça vient de l'histoire de Madame Sisra, la mère du général Sisra, qui pleure son fils, et dans la. On sait qu'elle a, elle a, elle a, elle a eu 100 sanglots, si vous voulez. Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut bien me faire que. Elle pleure son fils qui est un ennemi du clan d'Israël et qui, comme vous le savez, a été tué par Yaël, etc. Alors le problème, c'est que y a une idée générale qui est que Akadosh Baroukh Hou, il, comment on peut dire les choses, il est sensible à la souffrance. Quand ça pleure, ça a un impact. Et donc, pour compenser les pleurs de Madame Sisra, nous, on va sonner 100 coups de chauffard, en quelque sorte. Alors, comment ils marchent ces 100 coups? Quand on sonne Tkia, Shvarim, Trua, Tkia, ça compte pour 4. Quand on sonne Tkia, Shvarim, Troua, ou bien Tkia, Troua, Tkia, c'est chaque fois 3. Donc si on sonne tout le seder en question, ça fait 4, plus 3, ça fait 10. Et quand on sonne, voilà. Et donc, si on sonne la totalité, et qu'on sonne toute cette. Dans l'Amida, on va le sonner une fois 10 pour Malchouyot, 10 pour Zéphonot et 10 Shofar, ça fait 30. Donc on en a 30. Il y en a 30 aussi avant. Ça fait, on est à 60. Donc pour aller à 100, il nous en faut 40. Alors c'est pour ça qu'au milieu du Kaddish, on va sonner 30. Et à la fin du Kaddish, on va consoler 10. Comme ça, on a les 100. Maintenant, les communautés Sfarad, certaines. Et Sfard, eux, ils sonnent aussi dans la Amida de l'Arache, la Amida à voix basse. Donc, ils en ont 30 de plus. Donc, eux, à la fin de Moussaf, ils en ont déjà 90. Il leur manque plus que 10. Alors, ils sonnent 10 dans le Kaddish. Comme ça que c'est ça les différents minagim. Alors maintenant, après, des fois, on a l'impression que ça sonne beaucoup plus, parce que des fois, le sonneur, ça dépend du rabbin. Le sonneur, des fois, il pense qu'il n'a pas vraiment bien sonné, qu'il veut encore sonner un coup, de tout. Enfin, il peut faire. Donc, des fois, il y a des gens qui entendent 500 coups. Il n'y a pas de limite. Voilà, ça, c'est la technique, quoi. Juste pour qu'on sache ce qu'on fait. Le Icar, c'est dans la Amida, dans la répétition de la Amida. Et ensuite, les autres, c'est pour des raisons techniques, si on veut, et des raisons de minhag, c'est un peu plus, presque un peu mystique, quoi, d'aller jusqu'à 100. C'est sûr que si on sonne quelqu'un qui est malade, etc., on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 100. Absolument pas nécessaire. Voilà. Alors,
Pour les personnes qui sont malades, il
faut sonner en son 30. Enfin, si vraiment il est encore plus malade, on peut sonner moins, mais sonner 10, on peut parler comme ça. Quelqu'un éventuel, tu ne peux pas faire dans un hôpital ou comme ça, on ne peut peut-être pas sonner plus que 10, quoi. Agmara, elle parle de Tisha, elle parle de 9. Parce que si nous, quand je fais 10, parce que j'ai compté Shvarim 3 pour 2. Et si je dis que Shvarim 3 ensemble, c'est une sonnerie, alors ça ne fait jamais que 9. C'est toujours Kia, Trua, Kia. Quelle que soit la forme que prend la Trua, que ce soit la forme Shvarim, la forme Trua, ce que nous on appelle Trua, et la forme Shvarim Trua. Bon, pour faire 10, j'ai compté 2 dans la Shvarim Trua. Mais en fait, on peut très bien considérer que ça n'est que 9, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a qui sonnent un peu plus, parce qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment 30, quoi. Si, 27 à chaque fois. 3 fois 9 et pas 3 fois 10. Donc à chaque fois qu'on a compté, j'ai compté 30, en vérité c'était 27 à chaque fois. 27, 5 plus 4. La chose que première chose qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est de demander l'avis, quoi. Ce qui est spécifique à Rosh Hashanah, c'est que dans la Amida, la page du début de la fête, on demande Zofrinu Lechaim. On demande l'avis. Alors en fait, dans la Torah nous dit, Hachem nous conseille, nous dit, choisis la vie, choisis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Personne choisit la mort. Enfin bon, il y a des gens qui choisissent la mort, ils n'en peuvent plus, mais a priori, on ne choisit pas la mort. Pourquoi, quand on me dit choisir la vie, qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Alors, dans la Gemara, il y a une image. C'est vraiment une image que c'est le père qui prend la main de son enfant et qui la pose sur un morceau. Il y a un plat de viande et il met la main. Prend la main de l'enfant et il la pose sur une part et il dit prends ça. Ça, c'est la meilleure. Donc il lui dit choisis ça. Comme, mais C'est un choix qui vient d'une certaine manière de l'extérieur. Bon, ce n'est pas n'importe qui, c'est le père qui le dit à son fils, qui lui conseille de se ça, choisir. Choisir, c'est quelque chose, c'est un peu étonnant parce que ce choisir-là, il n'a rien choisi, l'enfant. Son père qui l'a choisi pour lui, quoi. Et donc, dans l'image, c'est Hachem qui nous dit choisis la vie. Et qu'est-ce que c'est la vie? Quelque part, ben, c'est les mitzvot. Mais choisir la vie, c'est pas le résultat. Les mitzvot, c'est bien le résultat du choix de la vie. Mais choisir la vie, c'est en amont des mitzvot. J'ai choisi la vie, alors du coup, j'ai fait une mitzvah, qui est une conséquence du choix de la vie. Effectivement, Hachem nous m'a dit, voilà, fais ça. Mais ouvacharta a priori, c'est quelque chose, c'est une démarche dans laquelle c'est la démarche elle-même qui s'appelle le choisir la vie. C'est pas la résultante de la démarche. Yonah dans son ouvrage de Charles Tchouva, il dit Da ki ma'alot ha'elyonot nimseru be'mitzvot asé. Sache que les hauts niveaux, les bonnes midot, les ma'alot, elles nous sont ordonnées sous forme de mitzvah tassé. La Torah, elle nous donne, fais ceci. Ça correspond à des malot et des yonot, et il donne comme exemple que bo malata prira. C'est marqué, ou bacharta bachaim, c'est une mitzvah tassé. Bacharta bachaim. Et donc, du coup, il faut se demander, c'est quoi exactement? En quoi est-ce que c'est une mala de choisir? La vérité, c'est que même dans le monde animal, il y a aussi un choix. Tu veux que ton bœuf, il trace un sillon comme ça, mais lui, il n'a peut-être pas envie. Si tu le laisses faire, il va pas du tout aller là où tu veux qu'il aille. Parce que lui, il a son idée. Là-bas, il y a de l'herbe, il va aller là-bas. Et donc, si cette main-là, si cette qualité de choisir existe dans le monde animal aussi, alors ce n'est pas une mala humaine, ce n'est pas de ça qu'on parle. On est obligé de se dire que ça ne peut pas être ça, la Bechira dont on nous parle. Quand la Torah nous me dit choisir la vie, elle n'est pas en train de me dire de quelque chose qui existe aussi dans le monde animal, parce que dans ce cas-là, c'est dans ma nature, donc pourquoi j'ai une mitzvah là-dessus. Donc en fait, nous, ce qu'on comprend, c'est que la ma'ala en question de la qualité de Bechira, c'est quelque chose qui a à voir avec la Tzurat Adam, avec le fait que nous sommes Tzelem Elokim. C'est lié à Tzelem Ce n'est pas le fait de pouvoir faire ce que je veux, ce n'est pas ça la prière. C'est quelque chose qui est lié, on va voir, avec le Tzelem Elokim. Le Maharal, quand il parle de cette inyan de Bechira dans Kavot, en fait, il dit, mais juste avant, c'est justement marqué que Chaviv Adam Shenivra Betzelem Elokim. Donc, pour Maharal aussi, il fait remarquer la juxtaposition, donc il pense aussi que ça a à voir l'un avec l'autre. Le Nefesh HaChaim, il explique que Akash Baruch Hu a mis dans l'homme, dans la Tsurat Adam, dans la forme humaine, il lui a mis une capacité, une puissance de créer des mondes. Comme ça qu'il écrit. Et c'est en cela que c'est Tselem Elohim. Ça veut dire, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde au Maaseh de la même manière, la continuation de cette création de monde par Hachem, en fait, et se fait par l'intermédiaire de l'homme. Akadosh Baruch Hu a dit que Hachem a mis sa. Il a imposé à l'homme, en vérité, de prendre la responsabilité de la création et lui donne les portes, les clés, pardon, de la création. Évidemment, ça a été donné à ceux qui accomplissent la Torah. Et le Nefesh HaRim continue et il dit que cette force-là que nous avons de pouvoir créer des mondes, ça vient de ce que, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, l'a créé avec une neshama, avec une âme. Et cette âme, on dit, de cette neshama, on dit qu'elle est Chelek Eloka Mimaal. Une drôle de chose. La neshama, c'est une partie de la divinité. Oh. Et par ce biais-là, on a donc une force de faire exister à partir de la source, effectivement. C'est-à-dire, puisque ça vient de tout en haut, de faire exister, de continuer de faire exister le monde d'une certaine manière. Le Nefesh HaRim, il dit, je reviens tout de suite, le Nefesh HaRim, il dit aussi encore que, à partir du moment où quelqu'un pense à faire une mitzvah, lui passe par la tête qu'il va faire une mitzvah, immédiatement, il y a une trace en haut, au niveau des racines des choses. C'est à partir de cette trace-là que la mitzvah va être possible. Là-dessus, il dit que dès le moment où effectivement on a pensé faire cette mitzvah, il se construit, cette trace-là, elle commence à construire des mondes, des forces, des mondes. Marqué, dans mon avis, c'est marqué, va sim dvarai. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, pour que tu puisses l'into hashamayim, pour que tu puisses planter les cieux, etc. Et comme Chazal disent, comme toujours, altikre banaïch et la bonaïch, ne lis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Les hommes sont des constructeurs de monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une mitzvah et qu'il l'a fait, mais il ne la fait pas, comme on dit, mitzvah tanashim belumada, il ne la fait pas simplement mécaniquement, ou il ne la fait pas aujourd'hui parce qu'il l'a fait hier, ou demain parce qu'il l'a fait aujourd'hui. Alors il y a une espèce de lumière qui entoure, donc d'énergie qui l'entoure, en fait, et qui va lui donner l'énergie pour pouvoir faire la mitzvah, en fait. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. Évidemment, tout ça existe aussi, malheureusement, dans l'autre sens. La Véroque, ça construit aussi des mauvais mondes, en quelque sorte. Ça détruit les mondes. Je vais prendre l'image. Une image. On compare, dans la Torah, on compare, enfin, dans Chazal, on compare l'homme à un arbre. Mais l'arbre en question, il a ses racines au ciel. L'arbre en question, il a les racines en haut et ça descend comme ça. Donc, imaginez une plante. C'est-à-dire, quelqu'un a l'intention de planter une plante. Planter un arbre. Donc, on a dit, dès qu'il a cette intention, il y a une trace qui se fait. Alors, l'idée, enfin, ce que je me représente, c'est la chose suivante. Une mitzvah, ça a un impact. Mais d'où il vient cet impact? Parce que je vais secouer un bouquet, alors ça va déterminer le régime des pluies pour une année. Pourquoi ça marcherait? Pourquoi ça ferait une chose pareille? Parce que Hachem nous a donné des mitzvot, et qu'en fait, il a créé un monde dans lequel, si vous voulez, je me représente que c'est comme s'il y avait pour chaque mitzvah, il y a un potentiel, un virtuel, si vous voulez, il y a l'impact de la mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle agit sur les pluies. Celle-là, elle agit sur les vents. Celle-là, elle agit sur le soleil. L'autre, elle agit sur la lune, sur les étoiles. Y a un impact. Et cet impact, si vous voulez, c'est comme si virtuellement, quand Hachem a créé le monde, virtuellement, il a mis ces énergies-là en place. Et il nous a dit, il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Vetsivanu, il nous a ordonné, voilà, fais cette mitzvah, fais ceci, fais cela. Et quand, alors, c'est pour ça, fais-le, et à ce moment-là, ce sera comme si c'était toi qui l'avais fait complètement. Alors, bien entendu, on ne peut pas imaginer que c'est nous qui l'avons fait entièrement. C'est pour ça que je disais, on peut imaginer qu'il y a une structure préexistante, virtuelle ou peu importe, etc., et que nous, on va la vivifier, on va la rendre vivante, en fait. Elle était là, cette structure, mais elle n'est pas vivante. C'est en faisant la mitzvah, on va la rendre vivante. Mais comment on va la rendre vivante? C'est seulement si je fais la mitzvah de façon vivante, en fait. Donc, il faut que j'amène de la vie dans cette affaire-là. Alors, comment on fait pour amener de la vie? Alors, il y a un point qui revient tout le temps. La vérité, c'est que j'en sais rien, quoi. Je dis ce que je pense, mais j'en sais rien. Il y a un mot qui revient très souvent quand on parle de mitzvot. C'est marqué souvent à faire ce que je vous ordonne hayom, aujourd'hui. Chazal disent, ce mot hayom là, il vient me dire que je dois faire la mitzvah en question comme si elle venait de m'être donnée maintenant. Cette mitzvah, je l'ai jamais faite. C'est un truc tout nouveau. Elle est fraîche, je veux dire, je l'ai jamais faite. Donc c'est vraiment très vivant. Parce que c'est tout nouveau, c'est avec toute sa vie en fait. Donc il faut mettre de la vie dans la mitzvah qu'on fait, c'est ça le hayom. Hayom, alors là, je pense que La représentation la plus facile que nous ayons, c'est juste de cette notion de vie, c'est le rayon. Ça va, c'est tout frais. Pour nous, c'est ça la vie, c'est quelque chose qui est complètement. Voilà, c'est là dans son bouillonnement à la limite. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire les mitzvot de cette manière-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, je vais faire une parenthèse. Fais une parenthèse sur un sujet que j'aime bien, s'appelle le cannibalisme. Mais dans ce qu'on appelle les peuples un peu plus primitifs, quand quelqu'un voyait, y avait chez les ennemis quelqu'un qui courait très vite, bien, il allait tuer la personne, c'est l'ennemi, et il va manger son jarret parce qu'il pense que c'est sa capacité de courir vite, elle est dans son jarret. Elle est dans... Donc, il va essayer de prendre la vie, en fait. C'est une démarche, on a compris que on a besoin de prendre de la vie. Un autre exemple. Vous avez deux enfants qui jouent et il y a un enfant, il joue avec un camion. L'autre enfant, il regarde et il est jaloux, il voudrait prendre le camion de l'autre pour. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah bon, ben, voilà, on va lui donner aussi un camion. On lui donne le même camion. Il a aussi un camion comme l'autre. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le camion de l'autre, il est vivant. Son camion à lui, il est mort. Lui, ce qu'il veut, c'est un camion vivant. C'est ça qu'il a envie. C'est ça qui le fascine. Et si tu lui donnes un camion, son camion à lui, il n'est pas vivant. Ça ne marche pas. Donc, on voit très bien qu'on a cette. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu le vivant, il voit le vivant chez l'autre. Il voit que l'autre a une qualité qu'il appelle de la vie. Chez lui, il y a de la vie, ça. Il peut courir, il peut chanter, il peut danser, ou bien il a de l'imagination, etc. Et donc, on a envie, parce que c'est ça, c'est la vie que je vois chez l'autre. C'est que je peux pas, ma représentation de la vie, enfin, je peux pas l'imaginer tout seul. Donc, j'ai vu des situations que je comprends comme étant des situations de vie. Et du coup, la tendance, elle est, ben, je vais faire la même chose. Lui, il fait ça et je vois quelqu'un qui fait, par exemple, une mitzvah, il l'a fait visiblement, je vois très bien que ça vit chez lui. Alors, je regarde, ah, qu'est-ce qu'il fait? Ça marche parce que lui, il tient les choses comme ça. Il dit la chose comme ça, ou je vais essayer de faire, je vais faire la même chose. Évidemment, en général, ça ne marche pas parce que ça ne sert à rien de singer. Parce que pour qu'on apprécie la vie, en fait, il faut que ça nous touche, nous. Chacun, il a son appréciation de la vie, en fait. Et donc, singer, ça ne marche pas en général. Mais c'est quand même comme ça que, qu'est-ce qu'on va nous demander? Il ne faut pas singer, il faut essayer de comprendre la chose et de l'adapter l'adapter à mon tempérament, à ma façon de vivre, l'adapter à mon siècle, à mon pays, etc., au pays où je vis, etc. Donc, Bacharta Bachaim, ça voudra dire essayer de regarder du positif, regarder, avoir un regard positif sur les gens pour voir des choses vivantes et s'en inspirer. S'en inspirer vraiment, pas du tout copier, mais s'en inspirer. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il faut arriver à faire les mitzvot de telle sorte que ce soit vraiment vivant. Mais à la limite, pour que ça soit vraiment vivant, j'ai besoin de les voir, de voir quelqu'un faire une mitzvah de façon que je constate, que j'apprécie et que disons, ça, c'est vivant. Cette façon de faire, c'est vraiment vivant. Et si vous voulez, c'est ça l'écueil, en fait. Dans la transmission, etc., c'est que souvent les enfants, je crois que c'est l'écueil surtout du traditionnalisme, en fait, parce que c'est pas vivant. Et si éventuellement le père il fait les choses, hein, parce que dans sa tête il se dit, mais mon père il faisait comme ça, mais l'enfant il n'en a rien à battre, ça lui dit rien du tout. Par conséquent, c'est un problème d'invention. C'est une mitzvah difficile. C'est pas clair du tout. Comment on fait pour que ça soit vraiment vivant? Vais donner quelques exemples, mais je crois pas qu'il y ait une méthode absolue, disons, pour faire les choses de telle sorte qu'elles soient vraiment vivantes. Le Rambam, quand il parle de la Bechira, dans le Hilchot Teshuva, il parle de la Bechira, donc ce choix-là, il dit, évidemment, il ne s'agit pas du tout de le choix au sens élémentaire, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut. Le chidouche, c'est que l'homme peut, il a ce pouvoir de changer les choses. Ayom, ça veut dire, tu vas changer les choses, tu vas faire la mitzvah différemment, donc tu vas changer par rapport à ce qui était. Alors, notre capacité de changer les choses, elle vient de ce fameux lien que nous avons avec la volonté d'Hachem. Alors, ce n'est pas du tout qu'on a le pouvoir de faire les choses différemment dans un cadre qui est complètement fixé. Mais c'est que Hachem nous a laissé une possibilité de, par nos actions, de changer radicalement les choses. Ce n'est pas obligatoire de les changer dans un cadre bien précis. Là-dessus, le Rambam dit, Rechout le Chol Adam de Touna. La permission est donnée à chacun, à chaque homme. S'il veut pencher du bon côté, sur le bon chemin, liot tzadik, s'il veut être tzadik, il en a le droit. C'est écrit, et le Rambam dit, ou shekatu batora, en Adam aya ke achad bimenu, nada tov vara. Et le Rambam ramène ce passouk de Réchit, où Hachem dit, ah voilà, il va être comme l'un d'entre nous, c'est-à-dire il va être comme les malachim, si vous voulez. Nada tov vara, il va vivre éternellement s'il mange de l'arbre de la vie. C'est-à-dire cette espèce d'homme-là, il serait singulier, voilà, il serait seul dans le monde. Et min sheni domelo, c'est un inyan sheyehu me atzmo bedaato bemarshavto yodea tov vara, v'osei kol ma sheu chafetz ve'en mi sheyakev v'yado milasot atov vara, kivan sheken hu alors pe nishtach yado. On craint donc qu'il en vienne à manger du fruit de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement de cette manière-là. Ça veut dire que le Rambam, il s'est appuyé sur le verset Echad mimenu nada tovara, c'est-à-dire que l'homme, c'est la seule espèce qui peut décider par lui-même, avec sa propre volonté, et faire ce qu'il veut. À partir de. Mais c'est très étonnant. Pourquoi le Rambam, il a besoin de prendre un passouk pour dire que c'est possible de choisir, de faire les choses par soi-même? Si l'homme est déterminé complètement, alors il n'y a plus de problème de sraveonesh, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de sanction. Or, c'est un icar fondamental, c'est enfin, un icar fondamental, c'est un fondement de la Torah. Le monde a été créé avec ce principe de sachar ve'onesh, de salaire positif et négatif. Et non seulement ça, mais le Rambam, dans une autre halakha, il dit Al yavor de marshavtecha d'avoir zé, surtout que ne laisse pas passer, même dans ne pense surtout pas une chose pareille. Cette chose que les imbéciles parmi les peuples du monde et la majorité des Golmé Bnei Israël, les Bnei Israël qui sont des gens qui réfléchissent pas, Golem, c'est-à-dire. Ils pensent, ces gens-là pensent, et surtout ne pensent pas à toi comme ça, comme eux ils pensent, la bêtise. Shakadosh Baruch Hu gozer à la Adam mitrilato, mitrilat briato, biot tzadik ou racha. Qu'Hachem a décidé, avant même la création de l'homme, que cet homme-là qu'il va créer sera tzadik ou bien racha. Et la davarke, kol Adam raoui liot tzadik ke Moshe Rabbeinu. Au rachat que Yerovam. Tout homme peut devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou un rachat comme Yerovam, qui est le roi idolâtre mais qui avait bénéficié des 10 tribus au moment du schisme et qui est devenu un super idolâtre. Que si c'est comme ça, évidemment, bon, s'il choisit mal, ben, il s'est perdu lui-même. Et c'est pour cette raison que Raoui lo livkot le konen al chataav. Et donc c'est pour ça qu'il. C'est en fait ce qu'il dit, c'est personne ne peut l'obliger, c'est l'homme lui-même qui décide, comme le Rambam vient de le dire, de quel côté il veut pencher. C'est pour ça qu'il y a lieu, le cas échéant, de se lamenter sur les mauvais choix qu'on a faits. Maïtonen, Adam Khaï, qu'est-ce qui, de quoi il se plaint? Il vit. Donc le Rambam dit, Oïl ve'reshuteinu biyadeinu mida'ateinu asinu kol la'raot, ra'ulanu la'chzor b'tshuva, sha'reshut ata biyadeinu atkan le'shonah. Et donc, c'est difficile de comprendre ce Rambam. Il dit que la majorité des gens, des Golmés Bnei Israël, se trompent. Et que c'est évident qu'un homme n'est pas déterminé. Parce que sinon, évidemment, s'il était déterminé, il n'y a plus de temps. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est clair que pour Rambam, il n'y a pas de doute que l'homme peut évidemment faire des mitzvot ou des averot, et tout le monde le sait. C'est juste que il dit ici que on pourrait penser que le monde est ordonné de telle manière. Enfin, est vraiment tel qu'il est, il est ordonné tel qu'il est. Et par conséquent, on ne peut pas accéder à la racine de la réalité et la changer. De la même manière, on pourrait penser qu'un homme est créé, par exemple, dans un environnement mauvais. C'est marqué effectivement, barata, on lui dit à Hachem, barata tzadikim, barata rechaim. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Il dit, avche lo mouchach, le shum maase pratit. C'est sûr que personne n'est obligé d'agir dans, personnellement, enfin, en ce qui le concerne. Néanmoins, il y a quand même des situations générales dans lesquelles il peut se développer. Et ça, cette erreur, justement, c'est essentiellement une erreur qui est faite sur la tchouva, justement. Parce que si tu dis qu'il y a une réalité de la faute, c'est-à-dire qu'on fait une faute, on casse quelque chose. Donc les choses sont cassées. On ne peut plus rien y faire. Alors, l'idée, c'est que ce que dit Rambam dit que ce n'est pas vrai. Alors, évidemment, quand, si A tue B, même s'il fait tchouva, B ne ressuscite pas obligatoirement. Ça se saurait. Et donc, c'est assez fin. Là. Pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas changer? Agmara, elle dit, si quelqu'un, s'il y a un adultère par exemple, okay, les gens ont fait des fautes extrêmement graves, mais ils peuvent faire tchouva complètement. Mais si dans cet adultère, il y a un enfant qui est né, alors il peut faire tchouva, mais il restera toujours la trace de la faute. Et ça, est-ce qu'on ne peut rien faire? Et donc, le Rambam, justement, il s'appuie curieusement sur ce fameux verset là, enfin, qui est dit au moment de la création, justement. Il sera qu'Echad Mumenu, il sera comme l'un d'entre nous. C'est-à-dire, il sera seul dans son monde, comme Rachid a dit, c'est que si on va jusqu'au bout de la prira, on s'aperçoit que l'homme, il a une force qui lui vient justement de son Tselem Elohim, comme on a vu, que le Tselem Elohim, c'est, il y a, par rapport à ça, il n'y a aucune limite. Rien n'est déterminé qui ne puisse être changé par ce corps qui lui vient de Tselem Elohim. C'est pour ça qu'il dit, surtout ne laisse pas cette idée s'installer dans ton passé, dans ton esprit, ce n'est pas vrai. Mais ça, ça nécessite un verset parce que ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est ce qu'Hachem dit, il faut qu'on prenne des mesures parce que, à cause de ce Tselem Elohim de l'homme, il pourrait changer les choses, il pourrait d'abord manger de Etz HaChaim et V'chai Leolam, puisqu'il peut changer la Metsiout, il peut changer la réalité. Et donc, il a décidé de chasser l'homme du fameux Gan Eden. Donc, on voit que cette ma'ala, cette qualité tellement élevée de la prira, elle nous oblige à faire les mitzvot, ne pas faire les averot, parce que au fond, il y a là un dévoilement de notre Tselem Elohim, il participe de ce que nous faisons. Et par conséquent, ça, ce que nous faisons a un poids, une puissance incroyable. Donc, c'est très, très important de se rendre compte que, justement, la possibilité qui nous est donnée, qui se voit bien dans la tshuva, dans la possibilité de la tshuva, parce que, comme vous savez bien, il y a des possibilités de faire la tshuva de plusieurs manières, mais il y a une manière qui consiste à faire tshuva Meïra, c'est-à-dire en fait tshuva parce que par crainte, alors la crainte elle peut être à toutes sortes de niveaux, ça peut être crainte de la sanction, la crainte, ça peut être même une crainte révérentielle, mais ça, cette tshuva-là, elle peut annuler les fautes. Les fautes ont été faites, en fait tshuva, c'est comme si tu n'avais pas fait les fautes. Mais il y a une puissance encore plus grande, c'est cette fameuse tshuva me'ahava, qui se contente pas simplement d'annuler la faute, mais qui va inverser le sens, quoi, si vous voulez. Que si on a fait une faute qui vous met au 36e dessous, avec cette tshuva-là, on va se retrouver au 36e dessus. Incroyable, ça veut dire. Donc c'est un changement. On change complètement, c'est-à-dire on a fait quelque chose qui détruit des mondes, et si on fait tshuva, tout à coup, non seulement les mondes en question ne sont pas détruits, mais les mondes correspondants sont construits. Mais ça, c'est ahava, c'est un super niveau. Mais il y a cette tshuva, justement, qui permet d'avoir des pages blanches, de pouvoir recommencer, de pas avoir une journée gâchée parce qu'on n'a pas réussi la nuit, alors la journée est gâchée ou le contraire. On peut, il y a une possibilité de tshuva, et là, c'est une tshuva qui nous est donnée par le biais des korbanot. Mais après, il y a la tshuva qu'on peut faire soi-même. Korbanot faisait ce travail-là, effectivement. Mais il y a la tshuva qu'on peut faire par soi-même. Justement, ce fameux tshuva me'ahava. Donc, pour revenir à notre sujet, on ne peut pas vraiment quitter le sujet, mais c'est Ubacharta Bachaim, il faut faire les choses de façon vivante. Il faut choisir de faire les choses en y mettant de la vie. Si on y met vraiment de la vie, alors on les a faites vraiment de la meilleure manière qui soit. Et à ce moment-là, on a construit tous les mondes qu'on peut construire avec ces mitzvot. Je vous ai dit, on peut prendre cette image de la plante là, dont la structure existe mais qui n'est pas vivante. Mais bien sûr que pour que la plante elle grandisse, il va falloir du soleil, il va falloir de l'eau, il va falloir du vent, il va falloir du pollen, etc. Et tout ça, c'est des mondes. Donc, tous ces mondes-là, il va falloir les ajouter, il va falloir les produire. Je parle toujours, c'est une image, n'est-ce pas? Et donc, pour que ma mitzvah, elle fonctionne vraiment, il va falloir l'équivalent du soleil, de l'eau, etc. C'est-à-dire ces fameux mondes qu'on crée en faisant la mitzvah, on crée les mondes qui permettent que cette mitzvah elle ait un impact. On va construire l'impact, on change le monde. Maintenant, dans ce nouveau monde qui existe, dans lequel on a fait cette fameuse mitzvah, il y a, disons, plus de soleil, il y a plus d'oxygène, il y a plus de. Évidemment, vous prenez des arbres. Donc, on a construit un nouveau monde. Aujourd'hui, on a des images de cela. Et on sait très bien qu'on fait certaines choses, et puis ça développe des maladies alentour, etc. Parce que. Quand on crée certaines choses, il y a des effets secondaires, si vous voulez. D'accord? Mais ça, c'est des effets secondaires négatifs. Il y a des fois des effets secondaires qui sont positifs. Donc, quand on construit la mitzvah, a priori, si on fait la mitzvah exactement comme elles doivent être faites, il n'y a pas d'effet négatif. On construit que des choses positives, donc on améliore le monde, en fait. Ça veut dire qu'on doit améliorer le monde. On est là pour ça. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé un monde parfait. C'est difficile à admettre, mais il a créé un monde imparfait. Mais il a créé les hommes qui, eux, peuvent parfaire le monde. C'est-à-dire, Hachem veut que nous soyons associés, ses associés dans la création du monde. Parce que si on fait le travail, finalement, le bilan sera, le monde a été créé par Hachem et aussi par les hommes. Sur l'ordre d'Hachem, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais les hommes sont partie prenante dans l'affaire. Cette idée que il faut essayer d'être partie prenante au maximum, ça nécessite d'inventer les choses. Je donne toujours l'exemple qu'on a vu par ailleurs. Moshe Rabbeinu, à Matan Torah, il a décidé que le clan Israël doit être aussi du côté de celui qui donne, et pas seulement celui qui reçoit. C'est-à-dire, on est arrivé, il a fabriqué une situation dans laquelle le clan Israël se donne à lui-même la Torah. Comment? Il fallait l'inventer, il fallait y penser. Bon, ce à quoi il a pensé, c'est que si on ajoute un jour, si on décale le don de la Torah, c'est nous qui avons décalé c'est nous qui disons quand c'est donné. Et un cadeau, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, quand vous donnez un cadeau, le moment ou la circonstance dans laquelle vous donnez ce cadeau a une grande importance, ça change le cadeau. C'est toujours le même bouquet de fleurs, si on veut, mais ce bouquet de fleurs, il n'a pas la même signification s'il est donné de cette manière-là ou de cette autre manière-là ou à ce moment-là, etc. Eh bien, d'avoir donné la Torah un jour plus tard que ce qu'Hachem avait prévu, et que c'est nous, c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu, mais au nom du plan d'Israël, qui a décalé la chose, ça fait qu'on est du côté de celui qui donne aussi, puisque on a fixé le moment où on va le donner, donc on a modifié ce qui a été donné. Donc là, on voit, il faut être créateur, en fait, être du côté de la création. Hachem veut que nous soyons du côté de la création. Et notre façon à nous d'être du côté de la création, c'est de faire les mitzvot de façon vivante, en quelque sorte, de choisir vraiment la vie. De choisir la vie, alors d'après ce qu'on a vu, choisir la vie, c'est en fait créer la vie, en fait. Bon, c'est la même chose que c'est être du côté de la création. Bon, il reste que je n'ai pas vraiment répondu à la question qui est vraiment la vraie question. Qui est, mais et comment on fait ça? C'est quoi choisir la vie? Je vais donner des exemples, mais je ne sais pas d'ailleurs s'il existe une formulation. Est-ce que c'est peut-être chacun doit le faire de la manière dont il le ressent, mais peut-être que on peut peut-être écouter un peu ce que vous avez à dire là-dessus, si quelqu'un a quelque chose à dire. Vous avez le droit de parler. Pour ça, il faut ouvrir les micros si vous voulez parler. Mais je suis intéressé parce que... Est-ce que vous suggérez comme façon de choisir la vie? Quoi la définition de la vie? On a dit éventuellement le Hayom nous aide à ça. Est-ce qu'on peut donner d'autres situations de... Abraham Avinu, Hachem lui a proposé. Il lui a proposé un deal qui nous paraît étrange. Il lui a dit, est-ce que tu veux pour ton peuple? Est-ce que tu veux la mort? Ou est-ce que tu veux l'exil, en quelque sorte? C'est-à-dire, tu veux la mort, ça veut dire, est-ce que tu veux que ton peuple soit un peuple comme les puissances du monde, c'est-à-dire de devenir très grand, mais pour très peu de temps, et ensuite disparaître? Ou alors tu choisis l'exil, qui est une forme de mort sociale, et tu choisis effectivement de ne pas exister comme les autres peuples, effectivement, mais d'exister beaucoup plus longtemps. Et donc Abraham, il a choisi le galout, c'est pour ça qu'on a eu ce galout de Mitzrayim, entre autres. Donc il a choisi une forme, la vie. Et là, choisir la vie, c'était de prendre une vie pas terrible, quoi, plutôt qu'une, mais qui dure longtemps, plutôt qu'une vie qui soit peut-être très vivante pendant très peu de temps. Alors, si vous voulez, c'est le problème de l'hédonisme. Ok, on va faire le ça veut dire on va profiter, et puis après, et puis, tant pis, après, on mourra, mais on aura bien profité. Donc, Abraham, il n'a pas choisi ça. Mais bon, c'est avoir envie, nous. Mais à l'échelle, la mitzvah, elle s'adresse à nous. Enfin, Tabachayim. plupart des mitzvot, on sait à peu près ce qui nous est demandé. Ici, le Rav c'est quoi? Choisir le bien, comme a dit Rambam. Mais... Peut-être, effectivement, c'est choisir. Ben, c'est sûr que si la vie va avec la simcha, c'est sûr que une forme d'expression de la vie, effectivement.
Il y a dans les mitzvot une grande force de vie. Quand cette force de vie, on la voit extraordinaire tant dans la nature. Mais pour ce qui est de la force de vie humaine, il y a des mitzvot qui l'expriment d'une manière assez puissante, quoi. C'est impressionnant. Ça ne paraît pas toujours, parce qu'on a l'impression qu'on fait des toutes petites choses, mais
exemple.
Elles sont rattachées, je ne sais pas, toujours au faisceau de la vie. Je sais pas, allumer des nérotes. Je sais pas, plein de choses, des plus petites aux plus grandes. Ça va de la mila à la façon d'allumer une lumière, à la façon de respecter l'autre. Je sais pas. C'est un peu pompeux ce que je dis, je suis désolé.
J'allais dire, c'est beau, on peut faire une fila, on peut la réciter rapidement, sans tomber mon corps. Au contraire, il peut lui donner justement la vie en la chantant.
Justement, par exemple, il y a des grands, dans les grands, comment on dit, grands chazanim, génération précédente surtout, il y avait parmi les plus grands, ils considéraient que leur façon de prier était extraordinaire, mais c'est des gens qui ne croyaient pas du tout. Pour eux, c'était une performance. Un très célèbre qui dit « Pourquoi est-ce que je suis meilleur que Yossele Rosenblatt ?» Bon, parce que lui, il jeûne et moi pas. On va pas dire son nom, mais... Oui, bon. Personne ne veut nous aider.
Je pense que choisir la vie, c'est accueillir l'autre comme on accueille également Hachem dans son cœur.
Choisir, accueillir l'autre comme on accueille.
Alors, je pense que choisir la vie, c'est accueillir l'autre.
Oui.
De la même façon qu'on accueille Hachem dans son cœur.
Ah. C'est clair que si je vois l'autre comme un Tzelem et Melokim, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, je choisis effectivement de l'accueillir parce qu'il est Tzelem et Melokim, parce qu'il est un créateur. J'arrive à le voir comme dans sa potentialité de créateur. C'est comme ça que Avraham Avinu a pu dire à Hachem que quand il y avait les fameux trois arabes, là, qu'il a dit « Attends-moi, je reviens, je vais m'occuper d'eux ». Il s'est allé s'occuper d'eux. Pourquoi? Parce que c'est des êtres humains, donc ils ont Tselem Elokim. Donc c'est aussi d'Hachem. Ils s'occupent d'Hachem, si on voulait, en s'occupant d'eux. Donc il est... Parce qu'ils ont une vie il faut les considérer comme porteurs de vie. Et donc, je les accueille comme porteurs de vie. Vous avez parfaitement raison. Si dans Pirkei Avot on dit qu'il faut apprendre de tout homme, pourquoi je devrais apprendre de tout le monde? Pourquoi tout le monde est positif? C'est justement que chacun a quelque chose de positif. Il s'agit de le trouver, il s'agit de le reconnaître. Donc il s'agit d'abord d'être capable de choisir la vie, ça veut dire, d'après ça, ça veut dire être capable de regarder les choses positivement avec un Ein Tova. Regarder les gens en recherchant le bien dont ils sont capables, le bien de, dont ils sont, qu'ils peuvent nous enseigner, qu'il y a quelque chose de bien à apprendre de lui. Donc voilà, c'est ça la vie, quoi. Je prends cette chose, comme on disait, comme le cannibale, en fait, qui prend chez l'autre, surtout qu'on va le tuer, et que il ne s'agit pas de prendre, pas copier, justement. C'est ça la grande difficulté. C'est que si je dois m'inspirer de l'autre, il ne faut pas que je copie. Parce que chacun a sa façon de faire, mais il faut que j'arrive à abstraire, si on peut parler de quelque chose de bien, de l'abstraire de ce que ça vient de lui, ça lui est propre, enlever ce qui est trop personnel, ce qui est personnel à lui, pour pouvoir importer la chose vraiment vivante chez moi.
Français, on a cette expression rendre les choses vivantes, c'est-à-dire les rendre agréables.
Oui, mais est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde? Parce que quand toi tu dis je veux rendre les choses vivantes, est-ce que c'est clair que pour moi ça veut dire c'est la même chose? Ta façon à toi de rendre les choses vivantes, est-ce que c'est universel? C'est-à-dire que est-ce que c'est clair que ou peut-être pas justement. C'est rendre les choses vivantes pour toi, avec ta conception de la vie, qui n'est pas complètement différente de la mienne ou de celle de l'autre, mais il y a un dénominateur commun, mais il y a une spécificité qui est ta vie à toi, ta façon à toi de percevoir les couleurs, d'avoir ce goût-là, ou etc. Rendre les choses vivantes. Si tu te mets maintenant à détailler, par exemple, donne des exemples de rendre les choses vivantes. On est là, on se comprend, ça on se comprend très bien, mais je ne sais pas du tout si on pense la même chose.
Ah, Rav qui fait un chiour, il peut le faire de façon monocorde.
Ah, c'est ça. Bon, ça tu penses monocorde, ça c'est possible, c'est pas. Bon, tu peux considérer que le vivant il est dans la façon dont vous présentez les choses.
Il va y mettre du sien, il va mettre de son vécu.
Oui, c'est ça. Je peux dire. Je peux aussi dire c'est pas vraiment vivant pour moi parce qu'il a des circonstances de vie qui sont complètement différentes des miennes. C'est pas la même génération, c'est pas la même formation, etc. Et donc, c'est pas vraiment vivant. Même si pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être vivant, mais pour moi, peut-être ça ne l'est pas. Parce que bien. Bon, on va s'arrêter là.